On va parler de, enfin, vu l'endroit, vu également ce dont on va parler, on va revoir le code, mais version de ces derniers temps. J'ai remarqué que, comme tous les enseignements, tous les bouquins qu'on lit, tous les audios qu'on entend, ça n'arrête pas de bouger. On peut regarder les mêmes, on peut voir les mêmes messages, et ils bougent avec nous finalement. Ce sont des messages assez vivants qui nous montrent en quelque sorte, sont des miroirs qui nous montrent où est-ce qu'on en est. Où on en est. Et on en est, et à chaque fois, on s'aperçoit que voilà, ben, j'ai lu la même page 4 fois et c'est la première fois que je vois ça dessus. Eh bien oui, parce qu'il y a moins d'ego, il y a moins de voile. Et donc on est plus en profondeur ou plus en haut dans l'esprit. Et ça, c'est toujours un grand plaisir. Mes yeux se posent sur la gerbe de blé du logo d'NTI. Parce qu'en ce moment, il y a ça qui revient avec. Je suis très heureux de faire cette traduction avec Dominique de NTI. NTI qui est tellement. Qui est d'une telle douceur, d'une telle déclaration d'amour de notre enseignant que. Ce serait dommage de passer à côté. Et je suis en train de voir qu'on est en train de faire quelque chose. Bon, mon esprit, moi, il projette, il va dans le futur. Bon, c'est l'ego, hein. Alors, je retiens un peu les chevaux, mais je ne peux m'empêcher de prévoir, en quelque sorte, de pressentir que. Non, non, sans gluten, sans gluten. De pressentir une belle œuvre en français d'NTI et un beau futur. En fait, pourquoi je te dis ça, Dominique? Pourquoi je vous partage ça à tout le monde? Puisqu'on est dans le salon aujourd'hui, donc on partage. On partage ce qu'il y a d'apparemment personnel, enfin du moins les nouvelles qui nous touchent tous et toutes, puisque la plupart d'entre vous sont là le vendredi également pour NTI, sont là depuis le début, et puis on ne dissocie pas les voix du Saint-Esprit entre elles finalement, parce que c'est toujours la même voix, c'est la même énergie. Eh bien, Regina sait depuis le départ qu'il y a une grande, grande, grande guidance pour NTI en France. Mais même quand elle a commencé à l'écrire, il y avait quelque chose qu'elle ressentait. Et tous les contacts, alors bien sûr, ça marche aux États-Unis, elle en parle, elle fait des conférences, il y a beaucoup de monde, etc. Mais les contacts qui apparemment ont retenu son attention, plus particulièrement, ont retenu son attention, était à propos de la fondation et à propos des avancées, etc., était ou avait à voir avec la France. Et le Canada aussi, Claudette, mais avec la France, avec le francophone. Alors, il y a toujours un grand clin d'œil, on verra pourquoi, n'est-ce pas? On découvrira as the plan unfolds. Alors que le plan se déroule, alors qu'on laisse les choses se dérouler d'elles-mêmes, le plan du Saint-Esprit se dérouler de lui-même, il y a quelque chose de bien intime entre NTI et la France. La France, comme je vois, qui va être la porte, le portail vers l'Europe. On en parle un petit peu, on commence à le sentir même avec Dominique, il y a quelque chose, et puis Regina tout le temps, à chaque fois qu'on en parle un peu, ou qu'elle le sent, elle me dit c'est incroyable ce qui se passe, il y a NTI, la France, NTI, même la fondation pour le Saint-Esprit qui est la fondation qui a ouvert Regina avec deux autres personnes aux États-Unis. Voilà, là pour ne rien vous cacher, je sens. À ce même niveau d'intimité en moi, je sens qu'il est l'heure de m'intéresser plus nettement à une guidance qu'on avait eue déjà depuis un bon bout de temps avant que je parte, avant que je quitte les États-Unis en décembre dernier, qui est d'ouvrir une fondation. Voilà. Une fondation qui serait une fondation sœur, en quelque sorte, de la Fondation pour le Saint-Esprit aux États-Unis. Je ne sais pas encore comment elle va s'appeler. Peut-être bien la Fondation pour le Saint-Esprit Europe. On verra bien. En tout cas, il y a y a des élans d'indépendance, entre guillemets, pour cette fondation. Et on va voir ce que ça donne. En fait, je vous lance ça parce que je me sens guidé à vous en parler. Vous êtes ma famille de cœur, vous êtes là depuis le début. Même si le début, c'était il y a 2 mois ou il y a 3 mois, c'est le début quand même, parce que ce sont les balbutiements de quelque chose de très beau qui est en train de se passer. Au fur et à mesure que chacun s'occupe de son travail, chacun s'occupe de ses pensées, de ses émotions, de son code personnel, c'est-à-dire du déroulement de son propre script, eh bien, quand on s'occupe de ça, de ses pensées, de ses émotions, de ses réactions, eh bien, on pressent l'avancement sur une sorte de tapis automatique, sur une sorte de flot en dessous qui nous conduit les uns vers les autres. C'est d'ailleurs le résultat de ce flot, ben voilà où on est là. Je me rappelle, il y a un an, on était quatre. Et j'étais très heureux, même d'être quatre. Quand mon ego me disait, non, on est quatre, je dis, mais attends, mais ça paraît être un écran ordinateur, mais imagine quatre personnes devant toi. N'est-ce pas? Et aujourd'hui, on est même pas 17, puisque je ne sais pas combien vous êtes chez Georgia, mais vous êtes au moins 5 ou 6. Regardez, imaginez le nombre de têtes, le nombre de cœurs, le nombre de désirs vrais qu'il y a derrière ces noms. Quoi. C'est merveilleux ce qui se passe. Et on est partout dans l'Hexagone et le Canada. Enfin, c'est très très beau ce qui se passe. Et vous êtes quatre dans le nouveau groupe du Nord, mais c'est très beau. Je rentre pas trop là parce qu'on va parler, d'autres choses, quoi. Qu'on parle toujours de la même chose. Mais je suis très touché. Je suis très touché. Hier soir, on a eu une super conversation avec Dominique. On faisait la traduction d'NTI. On en est toujours à Mathieu parce que ça prend du temps. Et touché par derrière ce travail commun. Ok, derrière cette traduction d'NTI, donc c'est-à-dire derrière tout ce que vous faites, tout ce que nous faisons toute la journée, qui paraît important, ok, et qui a sa place, eh bien il y a toujours la même carotte. Et la carotte, c'est accepter notre innocence, accepter l'amour, accepter que nous sommes aimés, accepter que je suis aimé, voilà. Derrière tout ça, et m'ouvrir à cet amour. Là, on fait le début d'NTI. Nous, on a commencé sur le groupe avec Luc, qui est vraiment le début. Le début du cours, c'est Luc. C'est là où ça commence vraiment. On commence à rentrer, à plonger dans le mécanisme de l'esprit, comme on l'a vu la semaine dernière et comme on va le voir là, vendredi prochain. À moins que ce ne soit jeudi. Non, non, c'est vendredi, je crois. Comme on va le voir, là on rentre vraiment dans le mécanisme de la pensée, dans le mécanisme qui crée l'illusion et qui nous maintient dedans. C'est vraiment dans Luc que ça commence. La plongée sous-marine dans l'esprit, dans le scrutinage ou scrutinement de l'esprit, dans l'observation active de l'esprit et les choix et les décisions, commence vraiment dans Luc. Mathieu, c'est une sorte de grosse dynamite qu'on se prend dans la tête quand on l'ouvre. J'ai toujours eu l'impression comique pour celles et ceux qui ouvrent NTI en se disant c'est un joli roman, ils le referment très rapidement après Mathieu. Une fois qu'on a passé le cap de Mathieu, alors on souffle, parce que NTI Marc est beaucoup plus léger. C'est d'ailleurs le seul livre dans le Nouveau Testament interprété par le Saint-Esprit, c'est-à-dire dans NTI. Où on nous parle d'histoire, et là c'est l'histoire de Jésus remaniée, remodelée, selon notre enseignant, donc une histoire toujours très très utile, un Jésus auquel on peut s'identifier, un maître tout à fait humain auquel on peut s'identifier, avec bien évidemment le même but, nous réapprendre qui on est, et puis après on commence dans Luc. Okay, et là, la spirale, elle commence véritablement dans Luc. Pour se terminer au livre de l'Apocalypse, c'est-à-dire les révélations, comme on dit en anglais, revelations. Et dans les révélations, c'est-à-dire dans le livre de l'Apocalypse, vous vous rappelez très certainement pour celles et ceux qui connaissent le Nouveau Testament, de ce livre de l'Apocalypse, qui est quand même assez, hein, selon Jean, assez pittoresque, on va dire, eh bien, à un moment, il y a l'idée des 144 000 et des 12 tribus. Les 12 tribus d'Israël, qui seraient les 12 élus, etc. Bon, voilà. Alors, bien évidemment, le Saint-Esprit se fait un plaisir de nous dire que l'élu, c'est le Fils de Dieu lui-même, et donc c'est absolument tout le monde. Il n'y a pas de, il n'y a pas d'élu, il n'y a pas plus d'élus à Boulogne qu'à Saint-Cloud, qu'en Provence ou qu'au Canada ou qu'en Chine. C'est pareil, on est tous un, on est tous les mêmes, donc il n'y a pas un élu plutôt qu'un autre. Donc ça, voilà, déjà. Et il se sert, à Lisbonne aussi, il se sert de ces 12 tribus pour le réinterpréter en les 12 leçons qu'NTI nous a demandé d'apprendre, nous a demandé de faire nôtre. Il y en a 12. Et la première, la numéro 1, et c'est pas pour rien qu'on met un numéro 1, surtout dans une œuvre écrite par de tels, sous de tels auspices, je dirais. La première leçon, c'est-à-dire la première tribu des 12 finalement, c'est tu es innocent. Tu es innocent. Voilà, je savais pas quoi faire avec la liaison. Tu es innocent, voilà. C'est notre innocence la première. Voilà la première et finalement la dernière des choses qu'on va apprendre. Nous sommes innocents. Okay? Et quand on étudie comme nous le cours, on voit bien que tout le système de l'individualité, tout le système de la personne, tout le système de pensée, tout ce sur quoi repose l'idée même de la personne et de la séparation est la culpabilité. Et le fait, il nous le dit beaucoup dans le cours, mais il nous le dit aussi dans NTI, surtout NTI. Le livre des Actes des Apôtres et surtout les Romains, le livre des Romains, l'épître de Paul aux Romains, eh bien, il nous dit qu'on a effectivement quelque part dans notre psyché, si nous croyons que nous sommes des personnes, des individus, des individualités séparées les uns des autres, eh bien, c'est un lot. On ne peut séparer la culpabilité, la croyance en la culpabilité, plutôt, parce qu'il n'y a pas de culpabilité, c'est du blabla, tout ça. Mais on y croit, donc ça devient une sorte de réalité ici. Et on ne peut dissocier l'idée des personnes de cette culpabilité. Pourquoi? Comme nous sommes tous des hologrammes du Fils, pris dans ce mythe, oublieux de sa nature, c'est-à-dire croyant maintenant à sa séparation, à la séparation d'avec sa source. Alors, dans des termes assez pittoresques aussi, le cours comme NTI nous révèle que on se sent coupable, on se croit coupable, parce qu'on aurait violé l'innocence du paradis. On aurait tué Dieu. Pour exister ici, pour croire que nous existons ici, en tant qu'individus séparés les uns des autres, c'est-à-dire vivants, n'est-ce pas? Ah, bien sûr que c'est le péché originel, oui. Et c'est la base, et c'est là-dessus que, bien évidemment, est projeté, pour ça qu'on a les Bibles que nous avons, etc., et les mythes humains, dans toutes les cultures, il y a la même chose. Parce que ça vient tout simplement du même système de pensée, de la même psyché, de la psyché une, parce qu'on est un, avec cette idée de je me suis séparé, mais j'existe. Mais j'existe. J'existe ici. Et si j'existe ici, si je suis vivant ici, c'est que j'ai dû voler la vie à Dieu, voler la vie au paradis. Voilà ce que nous avons, voilà les idées tordues qui s'amusent à se faire nier et réprimer dans le fin fond de nos esprits. Elles s'amusent à se faire nier par qui ? Par nous, c'est-à-dire par notre esprit aussi. En réalité, tout cela n'est pas vrai. Qu'est-ce que tu nous dis, Sophie ? On croirait que la petite idée folle aurait vraiment eu un impact sur Dieu. C'est bien d'utiliser le conditionnel, parce que rien n'a d'impact sur Dieu, c'est-à-dire rien n'a d'impact sur notre vraie nature, sur qui on est vraiment. Si tout ici est une illusion, s'il n'y a aucune vérité intrinsèque dans tout ce qui se passe ici, c'est qu'il ne s'est jamais rien passé. N'est-ce pas ? Et s'il ne s'est rien passé, je suis maintenant Dieu, c'est moi, c'est toi, c'est nous, c'est notre vraie nature, qui est absolument inaffectable, immenaçable, inchangeable, invulnérable. Comme nous dit l'intro du cours, rien de réel ne peut être menacé, et rien d'irréel n'existe. C'est-à-dire que tout ce que me montrent mes yeux du corps doit être irréel, puisqu'il est menaçable. Tout ici est menaçable. Donc finalement, on se fait une grande joie, du fin fond de nos cœurs, de te répondre tous à l'unisson, que non, la petite idée folle n'a aucun impact sur Dieu. N'a jamais eu aucun impact, puisque d'abord c'est une petite idée folle, et surtout, que tout ce qui est pensé, c'est-à-dire des symboles, des mots, arrive après. Gros clin d'œil de Dominique, qui me ramène toujours là. Et effectivement, une pensée, c'est du langage, et ça vient toujours par-dessus. C'est toujours une pièce qui est ajoutée. Et nous, on s'est identifié avec ces symboles, avec ces pièces ajoutées. Ça veut dire que ce sur quoi ça a été ajouté ne peut être affecté. Ça veut dire aussi que nous sommes ce sur quoi l'ajout a été ajouté. Et si c'est un ajout, c'est que ça n'est pas vrai. C'est que ça n'est pas naturel. Ça ne traite pas de la nature. Ça a été ajouté. Il y a l'idée d'un autre, d'autre chose qui est venue. Et comme la réalité est une, cette autre chose ne peut exister que dans notre délire. Le cours appelle dans notre endormissement. Et tout ce qui peut exister dans notre endormissement, c'est la pensée. Et quand je crois en la pensée, j'ai l'expérience de ce même symbole auquel je crois. Et quand je crois en une pensée, je m'identifie à cette pensée. Et non seulement la pensée est dans le temps, Dominique, mais la pensée a créé le temps. Elle est, comme tu dis, co-substantielle du temps. C'est une pensée, le temps. Le passé n'existe pas, le futur non plus. Et celui qui fait l'expérience du passé, du pseudo-présent et du futur, n'existe pas non plus. Car une fois de plus, pour rester autour de la question de Sophie, qui était une belle guidance d'ailleurs, tout de rose vêtu, eh bien, le Saint-Esprit, notre enseignant, nous dit, bien que une kyrielle, une myriade, on ne dit pas une kyrielle, mais on dit kyrielle, une myriade de spiritualité te disent que tu expérimentes l'illusion. Ok ? Bon, là, on arrive dans un truc. Là, je sens qu'on est en train de décapsuler, ou plutôt d'ouvrir une trappe, que le dernier mois va nous permettre d'ouvrir, nous a permis d'ouvrir. Vous êtes prêts ? On y va. Le dernier mois était tout à propos une trappe. une farce et trappe. Le dernier mois était tout à propos de l'irréalité des personnes. Vous vous rappelez? De l'irréalité des personnes et de l'irréalité de l'idée des personnes. Les personnes ne sont qu'une expérience. Ah, j'ai même envie de dire, les personnes n'étaient qu'une expérience. Autre n'était qu'une expérience. Ok ? Qui rend cette expérience possible ? Une pensée. La pensée je, la pensée moi, qui rend cette expérience possible. Et maintenant, tenons-nous par la main, nous allons descendre. Nous allons descendre. On a bien vu que les personnes n'étaient qu'une expérience. Et maintenant, on va se demander tous ensemble, qui fait l'expérience ? Qui fait l'expérience du monde? Qui fait l'expérience de l'illusion? Qui expérimente le temps? C'est une sérieuse trappe quand vous laissez cette question qui peut être un peu apeurante, pour l'ego seulement, quand vous la laissez infuser un petit peu, parce que je disais tout à l'heure, une myriade de spiritualités nous disent « bon, alors, on est venu faire l'expérience de quelque chose, de la divinité dans la matière, etc., 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 etc. » Il n'y a rien de mal à ça, n'est-ce pas ? C'est un chemin, ça nous amène à aujourd'hui, lundi 30, d'accord ? Lundi 30 mars, pour se poser la question maintenant, comme des grands, ok ? Parce qu'on a grandi, on est adulte, notre désir vrai a fait des petits. Donc, il devient adulte. Et l'une des questions qu'on peut se poser maintenant, c'est qui expérimente ? Qui fait l'expérience du monde ? Est-ce que le soi, c'est-à-dire qui on est vraiment, fait une expérience ? Posons-nous honnêtement la question. Il suffit de rentrer en nous et d'aller dans notre cœur, et j'invite les 17 noms, c'est-à-dire il y en a beaucoup plus que ça avec tous les groupes, prendre un petit instant, malgré ce qu'on nous placarde spirituellement depuis longtemps, on rentre dans le cœur, okay, dans la poitrine, parce que ça se passe dans la poitrine, n'est-ce pas ? Ça ne se passe pas dans la tête. On rentre et on pose la question là doucement, tout doucement. Est-ce que, en tant que qui je suis, est-ce que je fais vraiment l'expérience du monde ? Est-ce que j'expérimente les hauts, les bas, la forme, le corps, les personnes ? Qui fait l'expérience des personnes ? Et pourquoi est-ce une trappe ? Parce que quand on l'ouvre, il y a un grand vide. En dessous. Quand on dit qui fait l'expérience du monde, qui fait l'expérience du monde, okay. Il n'y a pas de réponse. Il n'y en a pas. Il peut y avoir des suggestions de l'esprit qui va nous dire bah moi, oui, moi. Qui je suis, le Fils de Dieu, etc., je fais l'expérience. N'est-ce pas ? Il y a bien quelqu'un qui fait l'expérience ici. On continue avec cette corde, n'est-ce pas, qu'on a, la corde du vrai désir, et on demande, on pose la question, mais qui fait l'expérience ? Qui expérimente ? Et il n'y a pas de mal, n'est-ce pas, à croire ceci ou croire cela. Une question, c'est simplement un questionnement, n'est-ce pas ? C'est un questionnement, c'est... Et un questionnement, il est intéressé le questionnement, je voudrais la réponse. Je ne voudrais pas dire c'est bien, c'est mal la réponse, je ne vais pas chercher le diable, je ne cherche rien du tout. Je cherche, je pose une question tout à fait honnête, Et je rentre en moi, je rentre dans ma poitrine et je dis, mais qui fait l'expérience du monde? Qui expérimente? Mais là, vous allez voir qu'il n'y a pas de réponse. Et pour cause, parce qu'il n'y a personne. Personne n'expérimente le monde parce qu'il n'y a pas de monde. Et il n'y a personne pour expérimenter ce qui n'existe pas. Parce que le monde existe uniquement, comme dirait Dominique, il est co-substantiel à celui qui en fait l'expérience. Accrochez les ceintures, on descend là. On descend. Il n'y aurait pas de monde sans le percevant du monde. On est d'accord? Quand j'arrête de percevoir un monde, il n'y a plus de monde. Bien. On a vu ces derniers temps que la réalité ou la solidité du monde dépend des pensées qui tournent dans le théâtre de mon esprit, dans mon mental. Et la solidité elle-même du monde, de la différence des formes, mais là je parle littéralement de solidité de la chaise, dépend de mon attachement aux idées qui tournent dans ma tête, de mon attachement, de mon attirance, de mon attraction au cirque, comme on l'a dit aussi, au théâtre intérieur. Toutes ces pensées qui défilent, plus j'y crois, plus le monde que je vois est solide, moins j'y crois, moins le monde que je vois est solide. Plus le monde que je vois, que je perçois, est lumineux, plus il devient mou, ok, plus la matière est molle. Et là, je reste sur la matière, mais comme l'enseignement est tout à fait absolu, donc ça marche sur absolument tout. Voilà. Ça marche sur les idées, les émotions, les événements, les personnes, etc., etc., etc. Bien. On a donc vu que le monde extérieur et sa solidité dépendent de ma croyance et de mon attirance et de mon attraction aux idées qui tournent dans ma tête, qui sont toutes, comme on l'a vu depuis cette fois-ci 2 mois, des définitions, donc des jugements, donc des enfermements de l'expérience. Et je mets maintenant le mot expérience entre guillemets, vous allez voir pourquoi. Enfin, vous avez déjà senti pourquoi. De l'expérience de la totalité, du grand tout. Ok? Quand je définis le mot chaise veut dire non table et veut dire non moi. Ok? Dans la définition chaise, il y a voilà Dieu qui est restreint maintenant dans un objet. Parce qu'en réalité, il n'y a que Dieu, il n'y a que de la lumière. Bon. Allez. On retourne plus bas encore. On retourne à l'idée même du percevant, de celui qui perçoit le monde, c'est-à-dire nous, d'accord? Nous. Nous, tels nous croyons, tels que nous croyons être. Mais maintenant, enlever le percevant, enlever celui qui voit, le monde tombe avec. Là, voilà la promesse. Enlève celui qui voit, le monde tombe avec. L'univers disparaît. Ce qui veut dire que quand on se pose la question « qui perçoit ?», vous vous rappelez du tableau magique que j'utilise maintenant de plus en plus souvent dans les ateliers et les conférences? La création ici passe par le désir qui crée des pensées ou des croyances qui, elles, créent des perceptions ces perceptions créent des expériences. Et là, on fait le chemin inverse. On parlait d'expérience tout à l'heure. On va aller voir, parce que l'expérience dépend de la perception, n'est-ce pas? Je ne peux pas faire l'expérience de la chaise si je ne perçois pas une chaise. Je ne peux pas faire l'expérience de la haine si je ne perçois pas ou si je n'ai pas défini la haine. Et je ne peux percevoir la haine ou percevoir la chaise si je n'y crois pas au préalable. D'accord? Ainsi, à la question « Qui perçoit la chaise ?» Qui perçoit la chaise ? Salut Christine. C'est Christine qui perçoit la chaise. À la question « Qui perçoit la chaise ?», nous allons avoir la même réponse qu'à la question « Qui fait l'expérience ?» de la chaise. Jusqu'à présent, on se suit, n'est-ce pas? À la question qui perçoit la chaise, je vais logiquement avoir la même réponse qu'à la question qui fait l'expérience de la chaise, de la haine, du beau temps, de la paix, etc. Du monde. Voilà. Qui fait l'expérience de tout ça? Et quand on remonte maintenant dans le tableau, on devrait donc avoir comme réponse à ces deux questions la même réponse à la question « Qui croit en le monde ?» pour le percevoir et en faire l'expérience. Qui croit en le monde ? Et là, qu'est-ce qu'on est en train de faire ? On est en train, version Ramana, n'est-ce pas, version Ramana Maharshi, on est en train de plonger, là, comme un pêcheur qui va chercher des perles au fond de l'océan. On est en train de ah ben salut Cricri qui vient d'arriver aussi. On est en train de s'armer. On est en train de comment dire, comment ça s'appelle, vous savez, de mettre ses ceintures de poids, vous savez, de se ralourdir pour pouvoir descendre. Comment ça s'appelle ça? Les choses que je mets, voilà, je suis en train de me lester, ok. Eh bien, là, ce qu'on nous demande de faire, c'est de nous lester pour plonger et pour aller voir, pour aller pêcher la perle. La perle, c'est le soi. Mais avant d'arriver au soi, il faut passer par la cause du monde. Et on arrive à la fameuse question, ok? On n'a pas encore commencé, Cricri ni Christine, les deux Christine. On n'a pas encore commencé le message, mais vous arrivez pile poil pour nous tenir la main. Là, on est en train de descendre en spirale. On a commencé en se posant la question « Qui fait l'expérience du monde ?» Et quand on tient, et là il va y avoir un moi, n'est-ce pas, qui va répondre « Bah moi !» Ok. Et on continue. « Qui c'est qui moi ?» Je veux connaître, je veux voir en face, ok. Je veux découvrir, c'est-à-dire enlever la couverture sur le visage de celui qui fait l'expérience, c'est-à-dire de celui qui perçoit, c'est-à-dire de celui qui croit en la réalité du monde. Et maintenir la question « Qui c'est ? Qui suis-je ? » Moi qui fais l'expérience apparemment du monde. Cette question-là, quand on la maintient, c'est ça le lest. C'est ça le plomb. C'est cette question-là qui nous fait plonger. Et qui nous fait plonger où? Voilà, là maintenant on peut y arriver. Qui nous fait plonger dans l'inexistence, c'est-à-dire la non-présence, c'est-à-dire le vide, la place vacante de celui, n'est-ce pas, de celui même qu'on a appelé Dieu ou le Fils de Dieu, qui ferait l'expérience du monde. Donc voilà ce que nous révèle le questionnement. Il n'y a personne qui fasse l'expérience du monde. Là voilà la découverte. Personne ne fait l'expérience du monde. Alors là c'est... Ah, mais qu'est-ce qu'il me raconte? C'est qui? Qui suis-je? Qu'est-ce que je fous là? Mais non, mais c'est Dieu qui est venu expérimenter. Mais non, puisque le monde dépend de celui qui perçoit le monde, posons-nous la question, mais qui perçoit le monde? Ça ne peut pas être Dieu. Puisque rappelez-vous de l'intro du cours, celle avec laquelle on a commencé, celle par laquelle on a commencé tout à l'heure, la discussion, rien de réel ne peut être menacé. Or, pour faire une expérience, il faut bien être affecté par cette expérience. Autrement, je ne fais pas d'expérience. Quand je me sens bien, quand je fais l'expérience du bonheur, eh ben, je suis en joie. Quand je fais l'expérience de la dépression, je suis en déprime. Quand je fais l'expérience du silence, je suis silencieux. Quand je fais l'expérience de la faim, j'ai faim, je mange. Ok ? Etc, etc, etc. Mais qui est ce « je » qui est déprimé, heureux, qui a faim, qui est en joie, qui est en silence ? C'est qui ? Ça ne peut pas être Dieu, puisque Dieu est immenaçable. Ça ne peut pas être nous, puisqu'on est Dieu. Voilà, Lucette, c'est personne. C'est personne parce que c'est un rêve. C'est un rêve. Qui expérimente le rêve? Le héros du rêve. Et qui est le héros du rêve? Personne. Est-ce qu'on peut dire que Dieu expérimente? Non. Non, non. Dieu, le soi, ne fait pas d'expérience. Heureusement. Heureusement qu'il ne fait pas d'expérience le soi. Et là, on arrive dans... Maintenant qu'on a touché à cette profondeur, on arrive clairement dans « mais Dieu n'a jamais rien créé, il n'a pas créé de monde en tout cas ». Voilà dans quoi on arrive. Mais il fallait descendre par là avant de pouvoir accepter une telle hérésie. N'est-ce pas? Pour les religions et les adeptes de l'expérience. Comprenez bien qu'il n'y a aucune critique dans l'expérience. Et qu'effectivement, mettre l'amour dans l'expérience, très bien. Mais qu'est-ce que ça veut dire, mettre l'amour dans l'expérience? C'est réaliser. Ah, ça, c'est très très bon. Qu'est-ce que c'est mettre l'amour dans l'expérience? C'est réaliser qu'entre celui qui perçoit la chaise et la chaise, il n'y a pas d'espace. C'est réaliser que la triade magique de l'ego, c'est-à-dire celui qui voit, l'objet qui est vu et l'action même de voir, ne font qu'un. Et là, je vous invite à infuser ce truc-là, mais gaiement, à y mettre des notes de violon avec et le décliner sur absolument toute chose. Celui qui mange, l'objet mangé et l'action de manger. 1. Celui qui s'assoit, le canapé sur lequel il s'assoit et le fait de s'asseoir. 1. Celui qui contemple, le ciel contemplé et le fait de contempler, l'action même de contempler. 1. Et pour celles et ceux qui sont comme moi assez visuels, Ou alors on voit les choses devenir un, si on les voit. On voit les choses devenir un dans l'expérience même de la géographie, c'est-à-dire la chaise que je vois, elle est à, voilà, le canapé est à 2 mètres de moi, Laurent, le corps, d'accord. Là, il y a une triade, il y a moi qui observe, Laurent, le corps, le canapé que j'observe et l'action d'observer, n'est-ce pas? Et tout ça se passe dans les 3 mètres, voilà, dans les 3 mètres. Alors, ou alors je vois tout qui disparaît dans l'unité parce que tout est lumière, etc. Comme ça, ça n'a pas bougé. Ou alors, et là, je vais vous partager une expérience perso, ou alors, vous imaginez un tapis qui part de mon centre, qui quelque part est derrière mes yeux, derrière les yeux de mon corps. Un tapis qui permet, qui accueille et qui permet le monde que je vois, et notamment le canapé. Et quand je commence à m'interroger, c'est-à-dire à porter mon lest et à plonger dans la nature de celui qui fait l'expérience, vous me suivez? Quand je plonge là-dedans, je plonge dans mes profondeurs. Et là, j'utilise en quelque sorte les profondeurs abyssales, mais géographiquement, c'est en moi, c'est dans mon ventre que je vais, ou quelque chose comme ça. C'est pas dans le canapé que je vais, c'est plutôt à l'intérieur de mon corps. Bien. Qu'est-ce qui se passe quand je fais ça? C'est comme si le canapé lui-même, rentrait dans mes yeux, prenait également mes yeux et mon corps avec, et tout ce qui se passe entre le canapé et moi apparemment, pour plonger avec le lest dans les fins fonds sans forme de mon être. Est-ce que vous me suivez? C'est très imagé. C'est comme si, comme nous dirait Dominique par exemple, c'est comme si il y avait des fils de lumière, comme tu me disais Dominique, et des fils de lumière qui partent de mon centre et qui rejoignent la totalité des points, des pixels de tout ce que je vois maintenant quand j'ouvre les yeux. Vous me suivez? Comme il y avait des fils qui partaient de mes yeux, mais là mon œil en fait c'est mon œil, c'est pas mes deux yeux. D'ailleurs quand on ouvre les yeux comme ça, on ouvre les yeux, est-ce qu'on peut voir deux yeux? Non. On voit un œil, en quelque sorte d'espace conscient, transparent, n'est-ce pas? Qui est en mon centre. Imaginez un fil, un point, le point d'où la perception commence. De ce point, des milliards de fils lumineux qui vont rejoindre absolument tous les pixels de l'écran qui est devant moi, l'écran de ma vie. Ok? Bien, bien, bien. Alors, si vous tenez ça, je vais en profiter pour prendre une gorgée de thé. Et si, comme je le pense et comme je le sens, on se tient toujours la main et on suit toujours cette description, un petit peu pittoresque, eh bien, là, on a bien rejoint le point à l'intérieur. On a bien compris, en donnant notre accord et notre désir, que tous les points à l'extérieur, les points perçus, les pixels, dépendent, on est en pleine physique quantique aussi, dépendent de celui qui perçoit. Celui qui perçoit, on l'a resserré en un point, derrière ou en notre vision en quelque sorte, dans notre intérieur. Et là, on est invité à questionner l'existence de celui qui voit. En disant, mais qui voit ? qui perçoit? On va entendre je, n'est-ce pas? Je vois, je perçois. On continue. C'est maintenant qu'on descend. Maintenant, on met la ceinture de plomb et on est là. Qui suis-je? Et qui suis-je? C'est une vraie question. La ceinture de plomb, c'est le questionnement. C'est l'interrogation. Naïve même. Mais qui suis-je? Qui est ce je qui perçoit tous ces milliards de points qui forment le théâtre d'images qui est sous mes yeux, avec toutes ces perspectives et tous ces codes, parce que c'est que du code, mais toute cette matrice en quelque sorte, codée, comme il le voit, tu vois, et qui perçoit? Parce qu'on est en train de nous dire que le monde dépend, la solidité de ce monde dépend de mon attraction à toutes les idées, c'est-à-dire de celui qui perçoit. Celui qui perçoit, c'est finalement une pensée. C'est la pensée « je », la pensée « moi », la pensée « je suis le corps », la pensée « je suis Laurent qui voit un monde extérieur à lui ». Vous voyez à quel point on est totalement dans la séparation, et vous voyez à quel point on est à la base même de la séparation. On est en train d'isoler le point percevant tous les autres points qui sont séparés de lui-même. Et là, on isole ce point et on dit, c'est qui ce point ? Qui fait l'expérience? Mais même en moi, même pour ceux qui ont avancé spirituellement et qui se disent, bon ben, c'est Dieu en moi qui fait l'expérience. Ok? C'est Dieu en moi qui perçoit. Mais c'est pas vrai. C'est pas vrai, parce que Dieu ne peut percevoir ce qui est faux. Dieu ne perçoit rien. Dieu sait. Dieu sait la connaissance. Alors il y a un problème. Il y a un problème avec la personne qui perçoit. La personne qui fait l'expérience. Le problème, c'est qu'il n'y a personne justement. C'est un mythe. Cette extériorité, ce point de perception est un mythe. Pas plus grand qu'une mythe d'ailleurs. Mais c'est un mythe. Et quand on s'interroge sur la nature de ce point, en disant « qui suis-je ?» N'est-ce pas ? Ce monde apparaît à qui ? À moi. Qui suis-je ? Tenez cette question. Nous sommes invités à véritablement tenir la question. Qui suis-je ? Remarquez à quel point le silence se fait d'or. D'apostrophe OR. Remarquez à quel point tous les problèmes disparaissent quand on se pose cette question. Et je vous invite à faire pareil pour le théâtre intérieur. Dès qu'il y a les pensées qui arrivent, je doute, j'ai peur qu'il me juge, je ne sais pas comment faire, je n'entends pas l'esprit, je vois la haine. J'ai du mal avec cette personne. Tout ça sont des pensées, n'est-ce pas? Sont des pensées. Posez-vous la question, mais qui perçoit ces pensées? Qui perçoit ces pensées? Ces pensées parlent à qui? Et restez, et je vous invite à rester avec ce questionnement, en sachant que ce questionnement, c'est le plomb, c'est le lest. Vous savez pourquoi c'est le plomb ou le lest? Parce qu'on va à la cause de toutes les pensées qui traînent autour, qui sont elles-mêmes, c'est énorme, qui sont elles-mêmes la cause de toutes les images qu'on voit autour, qui sont elles-mêmes les causes de toutes les expériences que soi-disant je fais. Alors je dis, pour qui apparaissent ces pensées? Pour qui apparaissent ces perceptions? Pour qui apparaissent ces expériences? Le mot apparaissent est absolument parfait. C'est une apparition. Le cours parle d'hallucination. Mais là, ce qui nous intéresse, pour défaire l'hallucination, c'est aller voir, mais qui hallucine? Et en posant cette question, on va voir qu'il n'y a pas de réponse. Et dans ce pas de réponse, il n'y a plus aucun problème, parce que toutes les pensées se taisent. Toutes les peurs s'évaporent. Toutes les perceptions se ramollissent. Pourquoi ? Parce que je rentre dans le fin fond de mon être, de mon être-té. Bien. Et maintenant, mes amis, on va descendre plus bas encore. D'accord ? On a bien vu que seule la lumière existe et qu'il n'y a que l'amour, malgré ce que notre tête et nos yeux nous montrent. Ce qui veut dire que même l'illusion maintenant, même l'illusion, c'est-à-dire même les expériences, même les perceptions, même le percevant, la pensée je suis le corps, la pensée je suis individuel, la pensée je suis Laurent, même ça doit forcément prendre sa source